Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Flavien Lopresti, je suis étudiant à l'université Bordeaux-Montaigne et membre de la chaire RICET, Réseau électrique et société en transition. Je prépare un mémoire histoire des prothèses myoélectriques et l'être humain augmenté. Donc c'est la première fois que je m'adonne à ce genre d'exercice, ne vous étonnez pas s'il y a quelques cafouillages. Je vais essayer que ce soit le plus fluide possible et le plus efficace possible. Le thème qui va nous occuper ici, donc l'évolution de la prothèse, tant dans son utilisation que dans la façon dont elle est perçue et représentée, comme elle est intégrée dans l'imaginaire et imaginée pour l'avenir. Donc déjà, sur cette première slide, sur cette première image, vous pouvez voir une photographie qui a été prise en 2014, où on voit Hugh Hart, un ingénieur biophysicien au MIT, qui est accompagné par Aimé Mullins, une athlète, actrice et mannequin, donc américaine. Tous les deux portent des prothèses aux membres inférieurs. Et vous pouvez constater que cette image est, elle est loin, très très loin d'être misérabiliste. Personne, je pense, en voyant cette image, ne se dise « Oh les pauvres, il leur manque des jambes ». Question bien entendu de perception et de représentation, c'est quelque chose qui a petit à petit changé, enfin qui est toujours en train de changer dans la perception à l'image des personnes que, à ce stade-là, on ne peut pas appeler en situation de handicap, vu que n'ont pas l'air d'avoir de problème à se déplacer ou à interagir avec leur environnement. La prothèse donc est une grande place dans l'imaginaire, d'abord avec le cyborg et aussi donc avec donc tout ce qui est implant augmenté. Donc on peut mentionner bien entendu Ghost in the Shell de Mamoru Oshii ou encore la firme DC Marvel. Donc Marvel, ici j'ai mis une image de Captain America, le soldat de l'hiver. Bucky Barnes, donc c'est en 2005 qu'on le revoit apparaître avec ce fameux membre bras cybernétique, et Cyborg, qui est un personnage qui apparaît en 1982, et donc dont j'ai mis deux visuels, un de l'époque et un plus récent, pour voir justement la différence de graphisme au fil du temps. Bien entendu, on peut en citer beaucoup d'autres, hein, que ce soit Cobra, Deus Ex, donc dans Deus Ex c'était Adam Jensen, si ma mémoire est bonne, ou encore bien entendu dans Star Wars avec Luke Skywalker qui donc se retrouve amputé d'une main, mais également son père avant lui, Anakin, qui lui devient de toute façon un cyborg, pour ainsi dire, total et complet, à partir du moment où il devient Darth Vader. Il faut également parler du très attendu Cyberpunk 2077, qui fera certainement date. Ces implants greffés au corps deviennent une part entière du personnage. Dans la SF, il questionne beaucoup donc la limite du moi, et c'est une question que le major Moto Kusanagi dans Ghost in the Shell se pose assez régulièrement, en définitive. On retrouve également, donc, dans les années 80, toute une esthétique du cyborg et de la prothèse, dans un style qu'on appelle le style chromé, qui, vous pouvez le voir, est antérieur, puisque on peut voir le même type d'esthétique déjà avec Metropolis, par exemple, ce film de Franz Lung, qui est sorti donc en 1927. Donc je vous ai mis ici donc 78 à 84, c'est la première série Cobra. Dans Metropolis, donc on a affaire à une androïde, pas à une cyborg. Par contre, Lydie, elle, est une cyborg. Le style chromé, ici, on le voit pas trop bien, dans le sens que on peut pas dire que le personnage soit très étincelant, mais dans les images propres à l'époque, c'est quand même très fréquent donc de voir des personnages rutilants, pour dire le moins. Et ce style donc avance encore avec Adam Jensen. Ici, vous pouvez voir que le côté chromé existe toujours, mais c'est beaucoup moins rutilant. Et là, on est vraiment dans du cyborg partiel, quoi, puisqu'il n'est pas totalement modifié. Tout c'est un cyborg visible, puisque que ce soit dans les années 80, comme aujourd'hui, on a représenté des prothèses ou des cyborgs avec une apparence humaine, et d'autres avec une apparence plus ou moins artificielle. De fait, on a donc ici des exemples qui peuvent s'inscrire également, les prothèses amovibles, donc apparaissent plus récemment, en tout cas de manière plus importante, dans le paysage notamment audiovisuel. Dernièrement, on pourrait parler par exemple d'une série Netflix qui s'appelle Lock and Key, qui dans les protagonistes secondaires présente un personnage donc avec des prothèses au niveau des jambes, mais également on a des performances dans des prothèses plus musclées, hein, puisque là on parle de prothèses surhumaines, qui sont beaucoup plus, plus fortes que ce que le membre biologique originel aurait pu faire dans des films et séries comme Gun, Mad Max Fury Road ou encore dans la saison 2 de Iron Fist, où il est amusant de constater que Misty Knight se retrouve affublée d'une prothèse amovible, là où dans les comics c'était une cyborg. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de ce changement? Donc, on pourrait donc en parler par les progrès techniques faits au fil du temps, ce qui pourrait rapprocher les prothèses de réel de quelque chose de plus fantasmé, ce qui pourrait entraîner donc qu'on passe d'un cyborg à de la prosthétique, ça pourrait en faire partie. Et justement, je pense que c'est le bon moment pour clarifier un peu ces termes. Donc déjà, qu'est-ce qu'une prothèse? Quand on parle de prothèse, il faut prendre en compte que c'est un objet destiné à remplacer, reproduire ou pallier un membre, un organe, une fonction altérée ou absente. Donc, avec une telle définition, déjà, il faut bien se rendre compte que la prothèse peut être autant une prothèse d'un membre manquant que des lunettes, un appareil dentaire ou encore des lentilles de contact. Mais également un iPhone, par exemple, puisqu'il nous donne un sens supplémentaire qu'on n'aurait pas sans lui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être pris en compte. De même, on peut également parler d'autres types de prothèses qui, là, sont internes, comme un pacemaker ou une pompe à insuline. Une prothèse est différente, peut-on dire, d'un cyborg, même si elle fait partie des composants du cyborg. Puisque le cyborg est une personne ayant reçu des implants mécaniques ou électroniques. Vos grands-parents, si l'un d'entre eux a une hanche artificielle, par exemple, est un cyborg. De la même façon, on peut mettre en avant certaines subtilités. Par exemple, il y a des prothèses esthétiques et d'autres qui sont utilitaires. Donc dans les prothèses esthétiques, on peut parler de prothèses de main, par exemple, qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont là juste pour ne pas montrer l'absence du membre. Utilisez le terme de prothèse esthétique si vous parlez de lentilles colorées ou si vous utilisez, parler de fossiles. De la même façon, on va parler donc de prothèses utilitaires, si on parle de lunettes, si on parle de lentilles de contact, et même donc des personnes ayant une parfaite, actuellement la technologie est en train de se développer, pour avoir justement une meilleure vue grâce à des lentilles de contact, et bien ce genre de prothèse donc pourrait donc apparaître pour des personnes qui, de prime abord, ont une excellente vue. Je voudrais aussi montrer ici l'intérêt de cette image, dont vous pouvez voir que c'est une personne qui a eu une transplantation, donc une implantation plus exactement. Donc c'est un implant osseux qui lui a permis de, à la place donc de porter une prothèse autour de son moignon, de l'intégrer directement à son corps. Par l'intermédiaire en fait d'un implant métallique qui se greffe dans le fémur. C'est pas forcément un fémur, hein, ça dépend évidemment du membre que ça concerne. Et cette tige donc permet d'emboîter directement la prothèse au corps. Et donc vous pouvez le voir, avant le fémur était totalement, peu s'en faut, inactif dans l'utilisation de la prothèse, alors que là il devient une continuité du membre cybernétique. Donc ça rend évidemment la marche plus évidente, plus fluide, mais également les réponses de la prothèse plus efficaces. Donc, dans l'histoire de la prothèse, on peut déjà remonter à 900 avant notre ère, hein, puisque on a trouvé à Luxor, dans une tombe, un orteil donc prosthétique qui donc permettait certainement d'améliorer la marche de cette femme, enfin ce qu'il en reste aujourd'hui, mais elle ne marche plus trop. Et il faut attendre le XVIe siècle pour que les prothèses amovibles apparaissent. Donc effectivement, je vous fais ça en quelques mots, hein, on va pas détailler trop. Mais donc, c'est au XVIe siècle avec Ambroise Paré, en fait, qui a l'idée d'appliquer les mouvements permis par les armures aux membres, cybernétiques n'est pas le mot ici, prosthétiques. Donc justement, il utilise en fait la base d'une armure pour fabriquer une prothèse de jambe. Et c'est comme ça que ça commence. Et donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a un bon nombre de personnes qui sont donc mutilées de guerre. Et quand il est question de les remettre au travail, parce que les primes, ça va, mais on est déjà dans un modèle capitaliste, il est question à ce moment-là de personnes outils. Et donc apparaissent des prothèses qui ont une fonction totalement utilitaire, mais propre à, pour ainsi dire, un seul usage, comme par exemple sur une chaîne de montage, ce genre de choses, qui d'ailleurs à l'époque avait pour but d'améliorer considérablement la vitesse de travail de l'ouvrier avec donc un type de mouvement dédié. C'était le fantasme de l'époque. Quelque part, c'est quelque chose qui reste plus ou moins vrai aujourd'hui avec certaines prothèses, j'y reviendrai. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale apparaissent les prothèses myoélectriques. Du moins, les premiers brevets de prothèses myoélectriques sont censés arriver à cette époque. C'est une technologie donc qui est très balbutiante, qui au départ doit être posée sur un établi parce qu'on n'a pas on n'a pas les moyens techniques de miniaturiser la batterie, hein, beaucoup trop gros, c'est pas possible d'être portable à l'époque. Et c'est seulement plus tard que ça va être possible. Ici donc justement, je définis ce qu'est une prothèse myoélectrique. En quelques mots, hein. Bon, il y a moyen d'être un peu plus complet, mais je pense que cette définition-là a le mérite d'être claire et rapide. Donc, c'est une prothèse d'un membre dont la commande de l'articulation se fait par la capacité de contraction musculaire. Donc, vous pouvez voir sur le schéma qui est en dessous de la définition qu'il y a donc l'orifice d'installation du moignon qu'on appelle une chaussette, puisque c'est un membre en silicone qui va permettre la jonction et surtout qui va permettre de ne pas abîmer le moignon de la personne qui va utiliser l'outil. Il y a une électrode qui va permettre de capter les contractions musculaires et à partir de là, ces contractions sont envoyées au servomoteur pour bah justement déterminer de quel mouvement il s'agit. Sur l'autre schéma, vous pouvez voir un tableau qui représente les brevets des ustensiles myoélectriques en nombre de publications et applications par année. Donc la différence entre la publication et l'application, c'est le moment en fait où le brevet est déposé et le moment où il est affirmé. Ici, pour le coup, c'est une base de données que j'ai compilée toute cette année et qui ne remonte pas avant 1969. Donc les tout premiers brevets, jusqu'ici, je ne les ai pas trouvés. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces brevets restent relativement bas, même s'il y a des progrès certains qui sont faits tout du long de la période, à la fois dans la façon de fonctionner des prothèses, mais aussi forcément dans leur fabrication et les matériaux utilisés, notamment l'optique, par exemple. Donc tout ceci a être mis en place, il y a en définitive très très peu de brevets avant 1989 et donc la fin des années 80, le début des années 90, où là on constate que ça commence à devenir plus important et une véritable envolée aux alentours du tournant des années 2000. Alors qu'est-ce qui nous permettrait d'envisager qu'on ait une telle envolée? Bah, de prime abord, il y a forcément une question technique qui sont importantes et à mettre en place. Cette question technique, d'ailleurs, ont certainement aussi une place dans la façon dont on perçoit le membre amputé. Donc du 19e siècle à nos jours, on pourrait dire que on est passé du Capitaine Crochet à Furiosa dans Mad Max Fury Road. C'est pas tout à fait le même type de personnage. D'un côté, on a un personnage bien entendu négatif. Bon, c'est propre à l'époque aussi et c'est pas forcément la prothèse qui fait que, hein, mais en tout cas, il est représenté comme particulièrement pathétique avec cette main tranchée qui lui manque en permanence. Le crochet reste une menace, mais en définitive, c'est également un problème puisque ça lui arrive de l'accrocher là où il ne faut pas. Et on a des exemples réels de personnes qui se sentaient extrêmement diminuées avec le port d'un crochet, par exemple. En tant qu'outil. Donc c'est quelque chose qui en définitive reste vrai. Et à côté de ça, un personnage comme donc Furiosa dans Mad Max Fury Road, joué par Charlize Theron, qui là pour le coup est un personnage autonome, efficace et dont en définitive la prothèse n'est pas considérée comme un problème. Ce changement d'image, on peut le voir donc comme je le disais, principalement probablement à travers l'évolution technique qui s'est opérée avec les prothèses. Déjà au niveau des prothèses du membre supérieur, on peut constater qu'au niveau des prothèses électriques, pendant très longtemps, on était resté sur quelque chose en définitive qui se rapproche de la pince. À nouveau, les prothèses myoélectriques, ce sont des prothèses extrêmement onéreuses, hein, et pendant longtemps, en définitive, le seul mouvement que vous pouviez faire était une pince. C'est dans le courant des années années 2000, en fait, que il a été possible de, et on le voit ici sur cette image prise d'un PowerPoint de Ottobock, qui est une entreprise spécialisée donc, dans la prosthétique. Ottobock, comme ses concurrents, n'arrivait pas à faire de prothèses avec pince tridigitale, c'est-à-dire en fait d'utiliser plusieurs doigts sur la main en même temps. Et c'est seulement donc aux alentours de 2004 que les premières mains polydigitales sont apparues. De même, durant les années 2010, on voit une amélioration constante des prothèses du genou et de la cheville, ce qui permet de fluidifier grandement la marche. Et c'est là que je vais vous inviter donc à regarder ces quelques secondes de vidéo. Voilà. Donc je pense que vous avez pu constater que cette jeune femme, qui est une danseuse, qui a dû être amputée suite aux attentats de Boston, ça se passe en 2014 et c'était sa première représentation en public après son accident, après les attentats. Donc, vous pouvez constater que même si les mouvements ne sont pas, bon, c'est pas le lac des cygnes, quoi, mais il n'empêche que les mouvements qu'elle fait sont totalement fluides. Et si elle portait un pantalon, il aurait été impossible de dire qu'elle avait une prothèse. Donc, ce genre de choses peut aussi expliquer pourquoi tout à coup la prothèse peut être représentée, voire plus par moment, même si je pense qu'on n'y est pas encore quand même, que les membres cybernétiques dans la fiction. Justement, c'est cette représentation, mais c'est aussi cette amélioration technique qui va m'amener à vous parler du transhumanisme. Donc, le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui met en avant l'être humain et les capacités humaines qui donc vont être améliorées au-delà de leurs capacités naturelles grâce à la science et à la technique. Et notamment, les prothèses et la cybernétique feraient partie possiblement du processus, bien sûr. Déjà, il y a une question aussi de réflexion sur le corps et la perception du corps, puisque de plus en plus, on peut voir, ah oui, le logo H+, c'est le logo transhumain aussi, donc j'y pense. Donc la perception du corps et la représentation du corps, c'est quelque chose qui peut aussi changer à travers les usages qu'on en fait. Un exemple simple dans la vie quotidienne, c'est le tatouage. Les tatouages étaient relativement rares dans les années 30, ou alors c'était fait pour des personnes de mauvaise vie. Le tatouage, à une époque, était destiné aux marins et aux prostituées. Ici, c'est fréquent que les personnes se tatouent, et en définitive, c'est une marque de personnalisation, quelque part, de son propre corps. De même, ici, c'est plus pour des buts fonctionnels, hein. Mais là je vous ai mis une image et c'est quelque chose qui est en train d'être étudié actuellement au Japon. C'est une queue qui permettrait de remplacer les cannes pour les personnes âgées. Donc en fait, la queue prend en compte l'équilibre de la personne et replace l'équilibre de la personne à travers sa marche, son mouvement, les faiblesses de son corps, etc. De même, vous avez l'image ici d'un sixième doigt, hein, d'un deuxième pouce en fait. C'est quelque chose qui ne sort pas de nulle part, puisque on a étudié les personnes qui possédaient un sixième doigt utile, hein, donc c'est-à-dire pas atrophié et capable de bouger, et c'est en général une sorte de deuxième pouce. Et on a constaté que quand on leur donne des tâches manuelles, le sixième doigt en général fait que leur main est plus efficiente que la main d'une personne à cinq doigts. Donc c'est quelque chose qui pourrait être transposé ici pour le milieu électrique, pour des personnes qui, comme la plupart d'entre vous, voire tous, vous tous et moi-même, ne possédons que cinq doigts. C'est un outil qui pourrait faire partie de notre quotidien dans le futur. Bien sûr, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais ce sont des objets qui peuvent apparaître dans notre quotidien. Il y en a certains qui sont purement esthétiques, ça c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître au Japon. Par exemple, des oreilles qui, donc, de style animal, qui vont bouger par la perception des influx cérébraux. Voilà, c'est des choses qui peuvent exister aujourd'hui et qui sont donc pas encore vraiment dans le paysage, mais qui malgré tout pourraient de plus en plus en faire partie dans l'avenir. De même, il y a donc une question de la réappropriation corporelle à travers le design. Alors ici, je vous ai mis forcément des choses un peu haut de gamme, hein, je vais dire, puisque là, vous avez le travail de Sophie de Oliveira Barata, donc pour cet homme qui a fait refaire sa jambe et cette prothèse elle dit que c'est une vigne, mais le modèle existe en mode tentaculaire avec beaucoup moins de fioritures, je vais dire, et techniquement, il est imprimable sur imprimante 3D. Et alors, je vous ai mis aussi la prothèse Nike telle que vous la voyez là. C'est un concept de designer. La prothèse en elle-même n'existe pas. C'est juste un design qui était conçu et proposé, mais qui pourrait possiblement apparaître, en tout cas, qui peut nourrir l'imaginaire. Et justement, ce sont des choses qui, malgré tout, entrent, donc, comme je le disais, dans le réel. Ici, par exemple, vous avez Tilly Loki. Donc, c'est cette jeune adolescente qui a eu, suite à un problème de naissance, si ma mémoire est bonne, on a dû lui amputer les deux mains et aux alentours de 12-13 ans, elle a eu ses premières prothèses myoélectriques et c'est devenu une sorte d'égérie dans le domaine. En tout cas, elle représente certaines marques comme Ottobock, je pense. Et là, pour le coup, elle porte des prothèses à l'image de Aelita, donc de Aelita Battle Angel, le film de James Cameron qui est sorti l'an dernier. Vous avez à côté de l'autre image, donc c'est, vous l'aurez reconnu, Tony Stark. C'est vraiment une prothèse qui a été faite pour cet enfant et qui a été faite dans une université et qui lui a été offerte. Et donc Robert Downey Jr. a joué le jeu en jouant le personnage de Tony Stark, tentant d'offrir à cet enfant donc une prothèse myoélectrique à l'image de son super-héros préféré. Ça aide aussi les enfants, notamment, à accepter leurs différences. Avoir un design de héros ou de super-héros, ça les aide à accepter ça et généralement, ça leur permet justement de mieux appréhender leur handicap et l'outil qui leur permet justement de le surpasser. Et enfin, dans la com également, puisque vous pouvez ici voir donc une prothèse qui s'appelle la prothèse Luc, je n'invente pas, et c'est basé en fait, le nom vient directement donc de la prothèse de Luke Skywalker, qui porte donc une main artificielle. Cette prothèse a ceci de particulier, d'autant plus qu'elle est haptique. Donc en fait, le revêtement de la prothèse permet de ressentir le contact. Et donc de donner des informations sur le toucher, la pression, voire la douleur, ce genre de choses. Donc ça fait partie des progrès constants qui sont faits dans ce domaine. Domaine qui, je le rappelle, malgré tout, reste marché, enfin de niche, hein, c'est pas fréquent, fréquent. Et donc on en vient, je fais un peu vite, sur la question donc de quelles pourraient être les dérives et en quoi est-ce que ce genre de choses, si elles devaient devenir plus fréquentes, par exemple, est-ce que quelqu'un s'amputerait volontairement pour changer un membre naturel contre un membre artificiel, est-ce que cette question est un problème? Bah, évidemment, ça dépend à qui vous la posez, mais beaucoup de fiction, de films, d'œuvres de fiction en général, mais également de penseurs, hein, se sont questionnés dessus. Et ce qui revient régulièrement, bien entendu, c'est la question d'un monde à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui auraient les moyens de se payer une prothèse ou un membre cybernétique de meilleure qualité et donc obtenir de meilleures performances, et les autres. De même, vous avez donc des questions donc plus d'ordre personnel, hein, comme la question du bien du mal, ou est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer à Dieu, est-ce que c'est arrogant, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont tout de suite plus intimes. Et justement, dans la fiction, on peut donc voir le premier exemple que je vous ai mis, Bienvenue à Gattaca, représente très bien, même si ça n'a rien à voir avec de la prothèse, là c'est de la modification génétique, mais ça représente très bien cette question de monde à deux vitesses, quoi, un monde pour les personnes transhumaines, surhumaines, et les personnes normales qui, elles, se retrouvent avec les basses besognes et sont considérées comme devenues depuis une sous-espèce. Mais en même temps, on peut voir dans de la fiction également des personnages qui, en définitive, sont en demi-teinte vis-à-vis de la prothèse. Autant vous pouvez voir ce questionnement de ce que je suis devenu, notamment donc avec le major Motoko Kusanagi dans Ghost in the Shell, mais vous pouvez le voir également avec le personnage de Adèle Spooner, donc interprété interprété par Will Smith dans iRobot, qui vit très mal la pose de ce bras artificiel suite à un accident. Mais également, il y a d'autres personnages qui ont fait le choix de payer une prothèse, et parfois c'est un choix qui n'est pas sans conséquences. C'est le cas par exemple de Kaidan Alenko dans Mass Effect, qui lui, pour avoir des aptitudes psychiques, s'est fait poser un modèle de booster cérébral un peu ancien, qui a l'avantage d'être plus efficient que les plus récents, mais qui lui donne des migraines atroces. Et on a le cas également, par exemple, dans Star Trek, avec Geordi LaForge. Là aussi, je ne vais pas tous les faire, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple du fait que ce sont des questions qui sont posées et qui reviennent en définitive à se demander et à rappeler que quoi qu'on fasse, il y aura toujours un prix, il y aura toujours des conséquences. Mais ça, c'est valable dans l'action tant que dans l'inaction. Donc, pour terminer, ici, donc, je voulais préciser que même si on a parlé de monde à deux vitesses, il y a cependant, et c'est pas pour rien que je parle de monde à deux vitesses, hein, c'est que c'est quelque chose qui est réel encore aujourd'hui, enfin, qui est totalement réel aujourd'hui. Par exemple, en 2013, une prothèse de main, ça coûtait 30 000 euros. Donc, il faut déjà les poser, quoi. Mais ceci dit, il y a des solutions alternatives qui sont en train d'être mises en place et qui proposent des progrès réels en la matière et des prothèses low cost, hein, qui en arrivent à 500 euros, je crois, même moins. Par exemple, ici, donc, vous avez la première image, c'est une image tirée de YouTube. C'est quelqu'un qui, grâce donc, à l'impression 3D, étudie la main et la façon de créer une main cybernétique. Et à côté, la seconde image, Human Lab ou My Human Kit, c'est une association qui, à travers les Fab Labs et l'impression 3D, propose des impressions low cost. Pour terminer, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, pour justement bien préciser que, bon, déjà, de 1, effectivement, il y a eu une modification exponentielle donc dans le marché, vous pouvez le voir, mais on est parti de pas grand-chose non plus, donc c'est pas extraordinaire non plus. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, ça reste un marché de niche. Cependant, les progrès techniques qui font que aujourd'hui on pourrait être confiant dans un avenir, j'ai envie de dire, avec membres cybernétiques, par exemple, ça reste actuellement de la fiction. C'est vrai que le bond technologique qu'on a franchi et qui semble se continuer, hein, puisque la technologie est ici, en tout cas depuis plus d'un siècle maintenant, de plus en plus exponentielle, pourrait effectivement donner à cette croyance, la rendre plausible et franchement vraisemblable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je propose à Cyril, Pierre et Natacha de me rejoindre pour une courte table ronde avant de éventuellement répondre à quelques questions s'il y en a.
Je ne suis pas sûr qu'on va aller s'asseoir, d'autant qu'on est physiquement assis.
Oui, de fait. Je vous laisse le soin de vous présenter brièvement.
Alors, je veux bien commencer rapidement, puisque c'est moi qui ai proposé à Pierre Lounis de nous rejoindre. Donc, moi, Cyril Abonnel, je suis le coordinateur, enfin, co-coordinateur de la chaire ISET, où Flavien est chercheur associé, on va dire, et aussi donc responsable de l'innovation collaborative et numérique pour notre direction régionale Enedis, basé à Bordeaux, pour le département de Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne. Donc on est partenaire à la fois du Bordeaux Geek Festival et mécène et cofondateur de la chaire ISET depuis 2017. Et on travaille en fait avec Pierre Launis, qui va se présenter sur des projets de... Enfin, on est partenaire sur des projets de drones intéressants pour les activités d'Enedis sur la surveillance des réseaux aériens. Quelque chose que tu as évoqué directement, Flavien, mais c'est un autre sujet d'augmentation de l'homme, puisqu'on déporte l'œil grâce à une caméra embarquée sur les drones. Voilà, donc ça me semble. Et par ailleurs, mais Pierre va se présenter bien mieux, je ne pourrais le faire. Il a aussi une double compétence, expérience d'enseignant et de responsable d'entreprise en robotique. Voilà, merci Flavien pour cet exposé qui est très intéressant. À la fois sur l'aspect historique, enfin, dans des dynamiques historiques, dans le champ médical, science-fiction, les enjeux de statut social, on voit bien avec à l'affût des entreprises qui n'hésitent pas à faire du marketing quand ça devient potentiellement acceptable d'un point de vue social. Et pour moi, il y a aussi un intérêt, vu de l'entreprise, mais j'y reviendrai après en laissant la parole à Pierre dans les médias. Merci.
Bien voilà, donc je vous laisse peut-être.
Oui, je suis là. Donc,
Oui,
bonjour.
on t'entend, voilà, très bien. Merci.
Bonjour, Et merci Cyril de m'avoir invité. Cette conf très intéressante de Flavien. Je suis content, moi, de pouvoir, tant que moi, en tant que chercheur et ingénieur, être capable d'entendre autour de sujets techniques qui avancent très, très, très rapidement depuis une vingtaine d'années, et encore plus rapidement dans les 5 dernières années, entendre ces problématiques sociétales de cette problématique-là. Alors, moi, je suis professeur des universités dans les domaines de la reconnaissance des formes, intelligence artificielle. Donc, comme Cyril le disait, c'est traduit dans le quotidien par l'analyse d'images, l'analyse de films. Ça, la reconnaissance des formes. Et l'intelligence artificielle, tout le monde connaît maintenant. C'est un peu galvaudé, on pourra en parler. Mais c'est tout ce qui est contrôle commande. Donc, ça vient de l'automatique. Donc, voilà, moi, je viens de ce bagage technique et scientifique-là. Et puis, après avoir passé 20 ans dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, je participe maintenant au transfert concret, puisque j'ai rencontré Cyril dans le cadre d'un partenariat innovation industrielle entre Enedis et notre start-up A2D, sur la problématique de drones, où on insère de l'intelligence artificielle sur des drones, utilisant ainsi leur caméra comme étant un œil déporté pour accéder à des endroits où il est compliqué d'y aller en tant qu'être humain. En plus de cette activité de start-up sur ces problématiques vision industrielle et intelligence artificielle, je dirige aussi une structure d'une dizaine de personnes en robotique industrielle. Et c'est là où j'étais très intéressé sur le travail que Flavien nous a présenté. C'est parce que dans mon job de roboticien industriel, on installe déjà des robots particuliers qu'on appelle des robots collaboratifs, dont une instance est l'exosquelette ou l'ergosquelette. Et donc, au-delà de la science-fiction, je pense qu'on pourra discuter sur la dimension technologique, sur la pertinence dès aujourd'hui de ces outils qui sont en train de s'ouvrir au grand public. Et donc, on va pouvoir bientôt tous travailler avec des exosquelettes passifs ou actifs en allant les louer dans les entités de location de matériel technique ou de bricolage. Donc, je pense que je pense qu'on pourra débattre sur ce sujet-là. Et à partir de ce sujet-là, j'aimerais bien aborder avec vous tous des questions de philosophie, parce que ça va amener à des problématiques sur la notion de transhumanisme dont Flavien a un peu parlé, qui pour moi, au quotidien, pose le problème de l'acceptation de la différence, de l'acceptation de l'augmentation de l'homme. Voilà pour ma longue introduction.
Donc, pour parler d'exosquelette, là, pour l'instant, dans les documents que j'ai pu compulser récemment, j'ai vu que c'est quelque chose qui s'ouvre très fort sur le marché, notamment dans tout ce qui est manutention, donc autant dans le médical que dans le BTP. Et apparemment, je crois que Amazon aussi est en train de faire une modification à la fois par de la robotique et par des exosquelettes sur le déplacement de ces produits dans les entrepôts. Et il est aussi bien entendu question de remplacer tout ce qui est fauteuil roulant et autres ustensiles pour les personnes âgées par des exosquelettes qui devraient être normalement, en tout cas ça se veut, plus confortables. Est-ce que j'ai dit une bêtise, Pierre ?
C'est vrai que les frontières sont floues maintenant entre un fauteuil roulant un peu ergonomique et un exosquelette. Et même un matériel, une mécanique dirigée par le système nerveux d'une personne. Mm-hmm. Vous avez tous dû entendre parler, il y a l'année dernière, je crois, de ce jeune tétraplégique d'une trentaine d'années qui commandait le haut de son corps par un système invasif, mais bon, on va dire semi-invasif, et qui permet finalement à ce tétraplégique de mouvoir le haut de son corps avec rien qu'avec l'esprit.
Oui.
En fait, la partie exosquelette, c'est le prolongement finalement d'une, on va dire, d'une perceuse qui s'autoporterait. Quand cet exosquelette est alimenté par de l'énergie extérieure, il se rapproche un peu de ce que Flavien, tu viens de nous dire là sur la notion de prothèse contrôlée par le muscle, hein, myoélectrique, tu appelles ça myoélectrique.
Oui, tout à fait.
Donc, on est en train, pas à pas, de converger vers cette problématique qui avec des machines mécaniques comme les exosquelettes pour porter des objets. Et ça, c'est vraiment, ça y est, nous, on fait de la promotion sur ces objets-là qui sont vendus et il y a énormément d'industriels qui sont en train de s'intéresser à doter leurs salariés de ces exosquelettes pour pallier les problématiques de TMS. Donc, on y est là déjà aujourd'hui.
J'en profite pour peut-être intervenir sur ce que vous venez de dire, avec le fait que, bien entendu, déjà, quand on parle de myoélectrique, forcément, tout cela est possible, et principalement, comme je le disais au départ, courant des années 70, donc c'est surtout la prothèse à pince, quoi, qui va rester quasiment jusque, enfin même carrément jusque dans les années 90, et tout à coup, on passe à quelque chose de beaucoup plus complexe. Ce qui permet ça aussi, forcément, c'est d'abord et avant tout l'amélioration des logiciels. Et qui dit logiciel dit algorithme. Donc forcément l'intelligence artificielle, alors ça dépend de ce qu'on appelle intelligence artificielle forcément, mais entre dans l'équation, je dirais, pour cette amélioration technique. De même, je voudrais préciser qu'il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté ici, parce que simplement c'est pas mon sujet. Simplement parce que ce serait trop vaste de traiter ce sujet-là en plus, mais actuellement il y a une technologie parallèle qui est en train d'apparaître qui s'appelle les prothèses neurales directes. Et c'est effectivement ces implants, maintenant on en fait qui ne sont pas invasifs, mais à côté de ça, Elon Musk, normalement cette année, est censé faire les premiers implants sur humains d'implants qui permettraient de travailler, enfin de connecter directement l'utilisateur à la machine. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Pour réagir, Pierre, sur ces sujets-là, moi, je ferais bien juste une incise. Tu as évoqué les TMS, là, les troubles musculo-squelettiques. C'est bien ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'industriels, avec un certain nombre de salariés qui sont sur le terrain, historiquement, à aller monter au poteau, pour faire simple, et rester dans l'image d'Épinal, mais en fait, un certain nombre de manipulations dans un environnement. Et à savoir en hauteur, soit en haut d'une échelle, soit dans une nacelle, avec des réseaux sous tension ou pas. Et on se rend bien compte qu'il y a finalement, on peut arriver à distinguer, je dirais, la précision du geste, et ça peut relever d'une forme d'art, hein, là, on parle d'homme de l'art, et un côté très pénible, où finalement, si on dissocie, enfin, si on essaye, et parfois on y arrive, de dissocier un geste technique, une dimension pénible et une dimension vraiment très précise et qui relève de la technicité et de l'expérience en l'occurrence du salarié d'Enedis ou d'un prestataire, on peut arriver justement, c'est là que je pense que, enfin, ça m'intéresserait de t'entendre aussi sur l'exosquelette. Pour moi, il revient à sa place et en plus on remet de la sérénité pour se dire que c'est pas un robot qui va remplacer le technicien, mais qui vient l'augmenter, là pour le coup, au bon sens du terme.
Oui, ça me paraît essentiel de concevoir l'apport de la mécatronique, cette alliance entre la mécanique, l'électronique, l'informatique, comme étant un allié. C'est une alliance pour devenir un allié de l'être humain. Alors, comme dans toute avancée technologique et scientifique, il y a toujours c'est Janus sur deux visages, donc il y a toujours deux côtés. C'est pour ça qu'on cherche à développer le sens critique de chacun dans la vie de tous les jours, les enseignants en premier lieu, de façon à ce que chacun puisse faire les bons choix de l'usage de ces nouvelles technologies. Mais tu as raison, parce que dans le monde industriel et chez Enedis en particulier, l'usage de la technologie, c'est bien pour pouvoir améliorer le geste, non pas en se substituant à l'être humain, parce que l'homme de l'art, l'expert, à une appropriation de la science de son métier qui est très fine, très précise, qui est capable de s'adapter pour ça, ce que le robot va avoir encore un peu de mal à faire dans les dizaines d'années à venir. Et donc, on est véritablement en train d'associer la technologie pour améliorer et faire en sorte que l'homme performe en gardant, en laissant à l'être humain ce qui fait son essence première, qui est la pensée, l'adaptation, la créativité.
Et alors, sur le point de Flavien, parce qu'on est intéressant d'entendre aussi, sur l'évolution des technologies, les avancées de l'intelligence artificielle, puisque Flavien évoquait une mission, de même que sur les prothèses neuronales directes, non intrusives. Est-ce que là-dessus, Elon Musk, qui évidemment, c'est un monde qui t'emmène sur des fantasmes, alors là, pour le coup, utopiques ou dystopiques, ça dépend des gens. J'imagine que tu as des choses aussi à dire ou à répondre.
Ah bah, c'est-à-dire que lui est techniquement il est transhumaniste, quoi, donc le transhumanisme, comme je disais, c'est une philosophie, mais quelque part c'est aussi une religion. Hein. Il y a beaucoup de croyances forcément autour de comment la machine va nous sauver. Peut-être que ce sera vrai, peut-être que ce sera pas vrai, mais pour l'instant ça reste dans le domaine de la croyance. Et de cette façon, on peut aussi constater par exemple que il y a quelques années, c'était assez amusant, donc beaucoup de transhumanistes dans la Silicon Valley notamment suivent un site qui s'appelle je retombe plus sur son nom là tout de suite, qui avait sorti une fiction qui s'appelait le Basilic de Rocco. Cette fiction expliquait comment une intelligence artificielle dans le futur allait punir des personnes, qu'elles soient mortes ou vivantes, pour ne pas avoir donné de l'argent pour lui permettre d'arriver plus vite. Et dans cette hypothèse, en fait, l'intelligence artificielle en question était bonne et punissait les personnes en question pour les obliger dans le présent à payer pour qu'elles apparaissent plus vite, pour qu'elles puissent sauver plus de monde. Donc c'est un truc un peu tordu, mais il y a des tas de gens qui ont pris ça au sérieux apparemment, et ça a fait un petit boom dans cette communauté. C'est Less Wrong, voilà, c'est ça, c'est la communauté de Less Wrong. Et c'était amusant de voir à quel point donc l'intelligence artificielle a ce côté très biblique, avec d'un côté l'intelligence artificielle bonne qui est une sorte de sauveur de l'humanité, ou l'autre l'intelligence artificielle nocive qui va détruire notre espèce et qui est une sorte d'antéchrist, quoi.
Oui, la dualité, c'est ce qui fait, je pense que c'était à l'origine de l'espèce humaine, hein. il y avait je mange ou je mange pas, j'ai froid ou j'ai chaud. Progressivement, on a amené autre chose que la dualité. Et dans le monde d'aujourd'hui, au niveau de la technologie et de l'intelligence artificielle en particulier, ce qui est relativement simple, c'est de faire des systèmes de connaissances qui sont capables de dire oui ou non, qui sont capables de dire c'est nominal ou ça ne l'est pas. Dans le cadre du travail qu'on mène avec Enedis et Cyril, ben c'est tel objet, il est bon ou alors il est en défaut. Voilà, cette notion binaire, elle est très simple à réaliser, et en même temps, c'est ça qui permet de faire fantasmer l'ensemble de la population dès lors que on veut faire rêver ou faire peur aux gens.
Oui, surtout que effectivement, en plus, tenu du fait qu'une intelligence artificielle ne peut pas être humaine simplement parce que c'est pas un être humain, elle a pas de glandes, elle est pas née, enfin pas au sens où on l'entend, elle ne peut pas non plus, elle ne peut pas agir comme un humain, et ça beaucoup de gens, je pense, ne le conçoivent pas. Il est 16h06, donc je pense qu'on va devoir laisser la place pour la conférence suivante. Ceci dit, si ça vous convient, je vous propose que pour les éventuels intéressés, de nous retrouver à la aux locaux de la chaire Reset, et éventuellement on pourra continuer le débat là-bas.
Merci à tous, effectivement, et rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Donc dans le Dôme du Tonnerre, on a des salles Cher I7 et Enedis, et je pense qu'effectivement la discussion est avec grand intérêt.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Et merci de votre attention.